VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour à toutes et à tous, le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du jeudi 10 mars 2022, en direct de Washington, Idrissa Seboudia
et Michel Joseph.
Nous commençons par les titres.
Au Tchad, la junte au pouvoir change de médiateur à 4 jours des négociations avec les rebelles.
En Guinée, des dizaines de partis menacent la junte au pouvoir de descendre dans la rue.
Au Soudan du Sud, plusieurs dizaines de morts ont été signalées dans la région pétrolière contestée d'Abyei.
En Ukraine, bombardement d'un hôpital pédiatrique hier à Mariupol. Pour parler aujourd'hui en Turquie entre les ministres russes et ukrainiens des affaires étrangères.
La pandémie de Covid-19 est loin d'être terminée, avertit Tedros Adhanom, directeur général de l'OMS.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
Au Tchad, la junte militaire a remplacé hier un comité chargé d'amener la rébellion à la table des négociations par un nouvel organe de médiation, ce qui pourrait signifier un nouveau report du dialogue devant s'ouvrir dimanche au Qatar. Claire Morin-Gibourg.
Un décret du président Mahamat Idriss Déby Itno crée un comité spécial chargé de conduire les négociations avec une vingtaine de groupes et alliances rebelles à Doha, dont la présidence est assurée par Chérif Mahamat Zene, le ministre des Affaires étrangères. Le gouvernement a refusé de commenter ce décret. Ce nouveau comité remplace le CTS, le comité technique spécial, présidé par Goukouni Wedeye, ancien président du Tchad. Monsieur Wedeye s'est également refusé à tout commentaire sur les raisons de ce changement, mais a nié avoir démissionné. Le pré-dialogue de Doha, qui devait s'ouvrir le 27 février, avait été reporté au 13 mars, une date qui ne pourra pas être tenue non plus, notamment en raison du changement de l'équipe de médiation selon des personnalités proches des négociations, sous couvert de l'anonymat. Ce pré-dialogue est une condition préalable à un dialogue national inclusif, également précédemment repoussé au 10 mai, entre le pouvoir et les oppositions politiques et armées en vue d'élections libres et transparentes, promises par la junte dès qu'elle a pris le pouvoir le 20 avril 2021.
En Guinée, des dizaines de partis parmi les plus représentatifs du pays ont menacé hier d'appeler à des manifestations, et ce si la junte dirigée par le colonel Mamadou Doumbouya persiste à les tenir à l'écart et à retarder le retour des civils à la tête du pays, tout en humiliant leurs leaders, ont-ils expliqué dans une déclaration transmise à un correspondant de l'AFP.
Ces partis soupçonnent la junte au pouvoir de chercher à discréditer et humilier leurs leaders en les poussant hors de chez eux au nom d'un programme de récupération de biens de l'État, comme elle vient de le faire avec deux éminentes personnalités nationales, les anciens premiers ministres Seydou Dalein Diallo et Sidya Touré.
Selon ces mêmes partis, une cour de répression des infractions économiques instaurées par les autorités est devenue un instrument pour disqualifier des leaders politiques gênants. Ils réclament un cadre permanent de dialogue pour discuter de l'échéance du retour des civils au pouvoir.
Au Soudan du Sud, des dizaines de personnes ont été tuées dans une flambée de violences intercommunautaires dans la région pétrolière contestée d'Abyei, ont indiqué hier l'ONU et un responsable local. Les combats dans cette zone, qui ont démarré le 10 février, se sont intensifiés début mars. Le point avec Nani Talani.
Les combats dans la région frontalière et pétrolière d'Abyei a fait 36 morts, un nombre indéterminé de blessés et 50 000 déplacés le 6 mars. Les tensions intercommunautaires ont augmenté au cours des dernières semaines dans la région administrative d'Abyei, prétendument motivées par des conflits territoriaux de longue date, des tensions intertribales et le désir de vengeance, indique l'OCHA, le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU. Le porte-parole de la zone administrative d'Abyei, Ajak Deng, a déclaré que deux attaques meurtrières ont été menées le week-end dernier par des éleveurs Miseria et des membres des forces armées soudanaises équipés avec des armes lourdes. La situation demeure tendue et les habitants vivent toujours dans la peur. Les opérations humanitaires dans les zones impactées par les combats ont été suspendues et les travailleurs humanitaires ont été relocalisés dans des endroits sécurisés. Dans un communiqué commun, les ambassades américaines à Djouba et à Khartoum ont fait part de leur grande préoccupation devant l'escalade de la violence dans la région. Elles appellent toutes les parties à cesser les représailles et à reprendre le dialogue. La FISNOA, la force intérimaire de l'ONU, qui y est déployée, appelle également à la fin des violences.
Au Gabon, le président Ali Bongo Ondimba a ordonné hier la levée de toutes les mesures restrictives de lutte contre le Covid-19, ce qui implique notamment la fin prochaine d'un couvre-feu strict et ininterrompu depuis 2 ans. L'opposition dénonçait depuis des mois le maintien de ce couvre-feu.
Dans un discours télévisé, M. Bongo a déclaré que ces mesures restrictives ne sont plus justifiées parce que l'épidémie de Covid-19 a refoulé environ 800 cas détectés quotidiennement au plus fort de la 3e vague, à moins d'une dizaine aujourd'hui.
L'Afrique du Sud est le pays le plus inégalitaire du monde, la race jouant un facteur déterminant dans une société où 10% de la population possède plus de 80% des richesses. C'est ce que dit un rapport de la Banque mondiale publié mercredi et selon lequel l'héritage du colonialisme et de l'apartheid, enraciné dans la ségrégation raciale et spatiale, continue à renforcer les inégalités.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Barbare, immoral, crime de guerre, le bombardement d'un hôpital pédiatrique par les forces russes dans la ville assiégée de Mariupol a provoqué l'indignation des autorités ukrainiennes et des occidentaux, alors que l'armée russe se rapprochait jeudi de Kiev, selon l'état-major ukrainien. Le nombre des personnes ayant fui les combats pour se réfugier à l'étranger était désormais évalué à entre 2,1 et 2,2 millions par l'ONU.
Cette attaque contre l'hôpital a fait 17 blessés. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a condamné donc un crime de guerre. La Maison-Blanche a dénoncé un usage barbare de la force contre des civils. Et le premier ministre britannique Boris Johnson a qualifié le bombardement d'immoral.
D'autre part, discussion aujourd'hui en Turquie entre les chefs de diplomatie russes Sergei Lavrov et ukrainien Dmytro Kuleba avec leur homologue turc Mevlut Cavusoglu comme médiateur. Il s'agit de la première rencontre à ce niveau depuis le début de l'invasion le 24 février.
Le président Volodymyr Zelensky a appelé les Occidentaux à envoyer au plus vite des avions de chasse à l'Ukraine et la vice-présidente américaine Kamala Harris va discuter ce jeudi en Pologne avec les dirigeants de ce pays pour voir comment fournir une assistance militaire aux Ukrainiens, selon des responsables américains.
Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom, a averti mercredi que la pandémie de Covid-19 est loin d'être terminée, une déclaration qui survient quasiment 2 ans après que l'OMS a élevé la crise du Covid au rang de pandémie. Le point avec Mohamedou Oumfa.
Même si l'OMS note depuis quelque temps que le nombre d'infections et le nombre de morts baissent, cette pandémie est loin d'être terminée et elle ne sera finie nulle part si elle n'est pas finie partout, a souligné le docteur Tedros Adhanom Ghebreyesus lors d'un point de presse virtuel à Genève. Le virus continue d'évoluer et nous continuons à faire face à des obstacles majeurs dans la distribution des vaccins, des tests et des traitements partout où le besoin s'en ressent, a-t-il insisté. Maria van Kerkhove, qui pilote la lutte contre le Covid-19 de l'OMS, a elle aussi mis en garde contre la baisse du nombre de tests qui peut donner une fausse impression sur le nombre réel d'infections. Bien que nous voyons des tendances à la baisse, nous avons quand même répertorié 10 millions de cas confirmés au niveau mondial la semaine dernière, a-t-elle rappelé. Il faut rester vigilant, a-t-elle mis en garde, à un moment où de nombreux pays, en Europe en particulier ou aux États-Unis, ont abandonné l'essentiel des restrictions sanitaires destinées à contrôler la maladie.
Le président américain Joe Biden a lancé hier les travaux en vue d'un dollar numérique, un tournant important pour le billet vert. Toutefois, M. Biden promet la plus grande prudence face aux nombreux risques liés à cette innovation, Abdourahmane Dia.
Face à l'essor des crypto-monnaies comme le Bitcoin et à l'utilisation croissante des paiements numériques, le président Biden a signé un décret demandant au ministère de l'Économie de lui remettre sous 6 mois un rapport sur le futur de la monnaie. Il veut notamment connaître plus en détail les avantages et inconvénients de la création éventuelle d'une monnaie numérique de banque centrale. Joe Biden demande en même temps à la Banque centrale américaine d'étudier les étapes à mettre en place pour le lancement éventuel d'un dollar numérique. S'il aboutit, un tel chantier pourrait révolutionner la finance mondiale sur laquelle le billet vert règne en maître. Mais le projet comporte une foule de risques, remise en cause de l'industrie bancaire traditionnelle, protection de la vie privée des utilisateurs, utilisation à des fins criminelles, danger pour la sécurité des États selon certains experts. D'après la Maison-Blanche, plus de 100 pays réfléchissent à lancer ou ont déjà expérimenté des monnaies numériques. L'un des plus avancés est la Chine, grande rivale des États-Unis sur les plans économiques, politiques et stratégiques.
La Minute Éco, Rosine Mounezero.
Les transporteurs routiers marocains ont décidé mercredi de prolonger de 48 heures leur grève observée depuis 3 jours pour protester contre la hausse des prix des carburants, notamment du gazole, sur fond de grogne sociale. Les grévistes exigent le plafonnement du tarif des carburants et des marges bénéficiaires des distributeurs d'hydrocarbures depuis l'envolée des prix à la pompe, accentuée par l'invasion russe en Ukraine. Les prix du pétrole reculaient fortement mercredi et ceux du gaz européen nettement plus volatiles ont diminué. Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en mai perdait 6,81% à $119,26. Le baril de West Texas Intermediate pour livraison en avril chutait de 5,71% à $116,64. Le cours du gaz a perdu 56% depuis son sommet atteint lundi à 345 MWh. Mais reste en hausse de 116% depuis le début de l'année. La compagnie américaine pétrochimique Chevron Phillips a accepté de dépenser $118 millions pour mettre en conformité 3 sites accusés de violer les lois sur la qualité de l'air, a annoncé mercredi le ministère américain de la Justice. Les améliorations prévues dans le cadre de l'accord devraient permettre d'éliminer 75 000 tonnes par an de gaz à effet de serre, responsables du réchauffement climatique et des milliers de tonnes de polluants de l'air dangereux pour la santé des populations environnantes, a précisé le ministère.
Merci Rosine. À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo.
Bonjour à tous. Pas de match aujourd'hui dans la compétition de la Basketball Africa League qui se joue présentement à Dakar au Sénégal. C'est jour de repos. Les hostilités reprennent demain vendredi. Hier, Rwanda Energy Group a crucifié Seydou Legacy Athletic Club de la Guinée 83-81 avec un shoot assassin de Jean-Jacques Nchobozwa du Rwanda à la dernière seconde alors que SLAC menait 81-80. Deuxième défaite donc pour le SLAC qui s'était déjà incliné face à l'Union Sportive Monastir mardi. Les Guinéens comptent une seule victoire jusqu'ici arrachée lors du match d'ouverture devant Dakar Université Club. Toujours hier, les Marocains de l'AS Salé ont remporté leur première victoire dans la compétition en venant à bout de Ferroviaro da Beira du Mozambique 95-84. Football, l'élection du président de la Fédération ivoirienne de football prévue le 23 mars a été reportée sur demande de la FIFA. Dans un courrier, la présidente du comité de normalisation de la FIFA, Mariam Daou Gabala, a annoncé la suspension du processus électoral. Cette décision fait suite à un courrier de la FIFA qui a rejeté le système de parrainage des candidats par les clubs ivoiriens, susceptible selon elle de bloquer certaines candidatures. Cette question des parrainages est au cœur d'un imbroglio depuis août 2020 et le rejet de la candidature de Didier Drogba, faute de soutien suffisant au sein des clubs ivoiriens. La FIFA a ensuite été mise sous tutelle en décembre 2020 par la FIFA qui a installé un comité de normalisation pour tenter de régler cette crise. L'élection a depuis été reportée plusieurs fois. Suite hier des matchs retour des 8e de finale de la Ligue des Champions en Europe, un triplé de l'international français Karim Benzema a permis au Real Madrid de renverser le Paris Saint-Germain 3-1 et de se qualifier pour les quarts de finale. Malgré son succès à l'aller 1-0, le PSG qui a ouvert le score par Kylian Mbappé, quitte par la petite porte la compétition qui constituait son objectif numéro 1 cette saison. De son côté, Manchester City s'est qualifié pour les quarts après son match nul face au Sporting Portugal 0-0, après avoir étrié les Portugais lors du match aller 5-0. En Europa League, l'Olympique Lyonnais s'est rapproché des quarts de finale en l'emportant sur la pelouse du FC Porto 1-0, tandis que le Betis Séville a été battu à domicile par Francfort 2-1 lors des huitièmes de finale aller. À suivre ce soir, FC Séville West Ham, Glasgow Rangers, Étoile Rouge de Belgrade, Sporting Braga Monaco, l'Atalanta Bergame fait face au Bayern Leverkusen et le FC Barcelone joue Galatasaray. Nous revenons au basketball pour finir. Avec vous, Idrissa, les résultats de la nuit dernière en NBA.
Merci, Yacouba. Quelques résultats. Milwaukee et Atlanta, respectivement 124 et 115. Houston et LA Lakers, 139 et 130. Phoenix et Miami, 111 et 90. Boston et Charlotte, 115 et 101. New York et Dallas, 107 et 77. De nouveau avec vous, Idrissa Seydoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Le gouvernement mauritanien a accusé mardi l'armée malienne de crimes récurrents contre ses ressortissants. Ces derniers mois, en effet, l'on a noté plusieurs disparitions et meurtres non encore élucidés de Mauritaniens en territoire malien. Pour en savoir plus, Mohamedou Houmfa a joint Moussa Oud Ahmed, journaliste mauritanien basé à Nouakchott, la capitale mauritanienne.
Ces derniers mois, il y a eu au moins trois incidents qui ont coûté la vie à beaucoup de ressortissants mauritaniens. Le premier incident, c'est la mort de sept ressortissants mauritaniens. La Mauritanie a accusé l'armée malienne d'avoir tué les Mauritaniens de manière très froide. Le gouvernement malien avait démenti. Il a promis de faire des investigations jusqu'à présent. On n'a pas eu de résultats. Après, il y a eu cinq Mauritaniens qui ont été attaqués enfin il y a trois jours. On parle de 15 à 30 civils mauritaniens qui ont été égorgés.
Qu'est-ce qui peut expliquer ces crimes? Est-ce qu'on a quand même une idée de ce qui se passe?
Vous savez, la Mauritanie a des frontières très larges avec le Mali. 2000 km de Sahara, de désert, que n'importe qui peut franchir à pied. Bon, il faut dire que le gouvernement malien n'est pas à mesure de contrôler tout ce qui est parti. Que l'armée malienne, c'est une armée qui est en déshérence et qui a la gâchette très facile. Ils ont l'habitude de faire beaucoup de bavures. Je crois aussi que la pression des groupes djihadistes est devenue très forte, surtout après l'annonce du retrait de la force Barkhane française.
Quelles seraient les possibles implications de ces tensions entre les deux pays qui ont en commun la lutte contre le djihadisme et qui travaillent déjà ensemble sur un certain nombre d'autres dossiers internationaux?
On est dans le G5 Sahel, on est dans l'organisation de la mise en valeur du Sénégal. On a beaucoup de relations, les relations entre la Mauritanie et le Mali. Puis je crois que même le gouvernement malien qui est aujourd'hui frappé par l'embargo qui a été fait par la FIDEO, la Mauritanie n'est pas membre de la FIDEO, quoi qu'il n'est même pas dans l'intérêt du Mali de le faire, encore moins dans l'intérêt de la Mauritanie. Pourtant, je sais qu'il y a beaucoup de colère dans l'opinion mauritanienne, mais je sais aussi que le gouvernement malien ne contrôle pas son pays, ne contrôle pas son armée. Et je sais que un véritable problème, le gouvernement mauritanien a déjà protesté. Le ministre des Affaires étrangères a appelé l'ambassadeur malien à Mauritanie, mais jusqu'à présent, il n'y a pas eu d'écho de la part du gouvernement malien.
Notre confrère mauritanien Moussa Oud Ahmed. Au Cameroun, les élèves du secondaire sont descendus dans la rue pour soutenir leurs enseignants qui manifestent depuis des semaines pour exiger de meilleurs salaires et conditions de travail. Le président Paul Biya a ordonné lundi le versement d'environ 4,5 millions de dollars aux enseignants en grève, mais ces derniers disent que ce n'est qu'une fraction de ce qui leur est dû. Reportage à Yaoundé de Moki Edwin Kinzeka, récit de Clermont-Régibourg.
Le ministère camerounais de l'enseignement secondaire a fait état de manifestations mardi de milliers d'élèves dans tout le pays contre l'absence des enseignants. Les professeurs des établissements secondaires publics du pays sont en grève depuis 2 semaines pour des arriérés de salaire ou des salaires jugés trop médiocres. Selon le ministère de l'Éducation, plus d'un millier d'élèves du secondaire ont défilé dans la rue dans la ville portuaire de Douala et plusieurs centaines ont manifesté dans la capitale Yaoundé. Des centaines d'autres ont manifesté dans d'autres villes pour demander au gouvernement de verser aux enseignants leur arriéré de salaire afin que les cours puissent reprendre. Boniface Adé a 21 ans et il étudie au lycée bilingue de Douala. Il dit que son éducation sera compromise si le gouvernement n'est pas à l'écoute des enseignants mécontents.
C'est de la négligence et de l'irresponsabilité de la part du gouvernement camerounais. Comment voulez-vous que quelqu'un puisse faire face pendant 1 an, 2 ans, voire 7 ans sans salaire? Ces enseignants ont des familles. Ils ont besoin d'argent. La Bible elle-même dit que l'ouvrier mérite son salaire.
Les associations d'enseignants et les syndicats camerounais ont appelé à la grève il y a 2 semaines, exigeant des arriérés de salaire, certains remontant à des années. Ils ont également demandé une augmentation des salaires mensuels des enseignants du primaire d'environ 150 $ à $400 et des enseignants du secondaire d'environ $400 à $800. La radio publique camerounaise, CRTV, a annoncé lundi que le président Paul Biya avait ordonné le paiement de $4,5 millions aux enseignants en grève. Le gouvernement a déclaré que l'argent était destiné aux arriérés de salaire des enseignants qui ont réussi leurs examens de fin d'études secondaires. Le montant a été rapidement rejeté par les enseignants en grève comme insuffisant. Thomas Gengue est professeur d'histoire et porte-parole d'une des associations à la tête de la grève.
Nous avons repris la 3e semaine de grève le 7 mars 2022. Le gouvernement nous dit avoir débloqué 2 milliards sur haute instruction du chef de l'État. 2 milliards, ça ne représente rien du tout. On nous a parlé de près de 140 milliards qu'il fallait pour payer cette dette. Donc, la grève se poursuit.
Les enseignants affirment que certains employés du gouvernement exigent des pots de vin avant que leur salaire ne soit payé. L'association des enseignants du Cameroun affirme que les autorités éducatives ont créé le problème des arriérés de salaire en recrutant plus d'enseignants qu'elles ne peuvent se permettre. Le gouvernement camerounais a organisé 4 réunions avec les enseignants pour tenter de négocier la fin de la grève, mais il a jusqu'à présent échoué. La semaine dernière, le gouvernement a promis de payer les salaires impayés d'au moins 17 000 enseignants, mais n'a pas précisé quand ils seraient payés.
Maintenant, pour rester dans l'esprit de la Journée internationale de la femme qui a été célébrée ce 8 mars, au Kenya, comme dans une grande partie de l'Afrique, les femmes ne possèdent qu'une petite fraction des biens immobiliers et moins de 14% des courtiers immobiliers du Kenya sont des femmes. Juma Majanga de la VOA a fait un reportage à Nairobi sur les défis auxquels sont confrontées les femmes dans le secteur de l'immobilier. Le récit est de Rosine Munezero.
Le marché immobilier kényan est en plein essor depuis une dizaine d'années, avec de plus en plus de projets commerciaux et résidentiels dans les centres urbains. Mais malgré ce boom, les femmes doivent encore relever de nombreux défis pour devenir propriétaires et constructrices. Pour Robin Emerson, présidente de Women in Real Estate, les hommes sont ceux qui dominent dans ce business.
J'ai assisté à des réunions de développement international où il y a 2 semaines à peine, des donateurs et des bailleurs de fonds internationaux parlaient de logements abordables et où tous les participants étaient des hommes. Ceux qui discutent de la destination de 8 milliards de dollars sont tous des hommes. C'est inacceptable.
Malgré les défis, de plus en plus de femmes s'aventurent dans le développement immobilier et parviennent à réussir. Lia Wambui a quitté son entreprise de vente de boissons pour devenir promoteur immobilier. Aujourd'hui, elle a construit plus de 200 maisons dans la région métropolitaine de Nairobi, bien qu'elle et d'autres femmes soient confrontées à de nombreux défis dans ce secteur dominé par les hommes.
So, you work with a contractor who feels Ainsi, vous travaillez avec un entrepreneur qui estime qu'il ne doit pas s'attendre à entendre des choses de la part d'une femme. Ou bien il y a une façon particulière de faire les choses et c'est comme ça qu'on fait les choses. Il pense que vous ne savez probablement pas parce que vous êtes une femme.
Ayant construit l'une des principales entreprises de fabrication de matériaux de construction au Kenya au cours des deux dernières décennies, l'architecte Winnie Ngumi comprend très bien les obstacles auxquels les femmes sont confrontées.
Même aujourd'hui, lorsque je représente l'entreprise, supposons que nous cherchons une facilité financière, que nous essayons d'obtenir un prêt, je suis confrontée à des préjugés. C'est presque comme si je devais avoir un homme avec moi dans la pièce lorsque je négocie des lignes de crédit pour l'entreprise.
Une organisation de réseautage appelée Women in Real Estate ou WIRE s'efforce d'aider. Robin Emerson en est la présidente.
Nous avons un programme de mentorat où nous prenons des professionnels pour les accompagner tout au long de ce parcours et pour les rassurer, pour être là et répondre à toutes les questions qu'elles pourraient avoir, même pour aborder les problèmes de harcèlement sexuel qu'elles rencontrent et pour les aider à être confiantes qu'elles peuvent parler de ces problèmes et que cet espace est aussi le leur.
Les experts du secteur disent qu'il faudra du temps pour se défaire des croyances culturelles et traditionnelles profondément ancrées au Kenya et dans toute l'Afrique, qui font qu'il est plus difficile pour les femmes de s'épanouir dans de nombreux secteurs. Mais les défenseurs de la cause des femmes comme Robin Emerson, Lia Wambui et Winnie Ngumi montrent que le changement est en marche.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Merci Rosine. Toujours à l'occasion du 8 mars, la Basketball Africa League Ball a profité de la Journée internationale de la femme pour organiser une table ronde autour du thème « Construire une carrière dans l'écosystème du sport et du divertissement en tant que femme », une thématique qui a permis à des femmes au cœur du basketball de partager leur vécu. Les détails avec notre correspondant à Dakar, Sedina Abagay.
Passionnée de basketball depuis le bas âge, coach Liz Mills s'est jetée dans l'univers de la balle orange dès ses 16 ans. Au fil des années, elle gravit les échelons jusqu'à devenir la première femme au monde à diriger une équipe nationale masculine. Aujourd'hui, elle est également la seule dame à la tête d'une équipe dans la Basketball Africa League.
J'ai commencé à entraîner en Zambie. Je suis allée à un tournoi ouvert seulement aux équipes masculines. Et je me suis dit, pas d'équipe féminine et je suis entraîneur. Donc, que vais-je faire? Je marche vers cette équipe et j'ai dit, puis-je diriger une séance d'entraînement? De là, je suis devenue entraîneur principal, jusqu'à aller chercher le titre national. J'ai alors poursuivi ma carrière en Afrique au cours des 10 dernières années. J'ai été séduite par le continent. J'ai eu la chance et le privilège de travailler avec différentes équipes ici. On me dit souvent que tu es la première femme qui fait ceci, qui a fait cela, et je suis fière de cet aboutissement en tant que femme. Mais je suis surtout fière d'être une coach tout simplement.
Where I am just a head coach.
Une fierté partagée par l'ancienne championne de WNBA, Monica Rogers, qui est actuellement en poste au sein de la NBA Academy. Pour elle, les femmes amènent une énergie positive incroyable dans le basketball en particulier.
I played for a team called the Minnesota Lynx.
J'ai joué pour les Lynx de Minnesota, une équipe qui a été mauvaise pendant très très longtemps. Mais une fois que moi et quelques autres avons rejoint cette équipe, nous avons remporté 4 championnats. Après notre deuxième titre, des fans très dévoués venaient nous voir. C'était des femmes plus âgées qui ont soutenu cette équipe depuis le tout début. Et elles étaient en larmes et exprimaient beaucoup de fierté. Et pour moi, quand une femme gagne, tout le monde gagne. Je ne le dis pas seulement dans le cadre du sport. Ça peut être dans le monde des affaires, ça peut être n'importe où. Quand une femme tente sa chance, qu'elle soit la première ou la pionnière et fait un excellent travail à ce poste, elle ouvre la voie à d'autres femmes qui viennent derrière elle. Je pense que c'est important.
And I think that's important.
Au-delà du cadre typiquement sportif, l'écosystème du basketball offre également des perspectives à de jeunes africaines. La Rwandaise Aïdine Ndayishimiye, membre du staff de la Ball, affirme qu'elle a bénéficié d'un soutien positif dès la première saison de la Ligue.
J'étais au Rwanda, je viens du Rwanda. C'est un des pays qui a le plus grand nombre de femmes au gouvernement. Et c'est la mission du Rwanda, en fait, c'est de mettre les femmes de l'avant et de leur donner toutes les opportunités qu'elles peuvent avoir. Le jour où j'ai réalisé qu'ils me mettaient de l'avant, non seulement pour mes compétences, mais aussi parce que j'étais une femme, c'était très rafraîchissant de voir.
Pour
Amadou Galofal, président de la BAL, la présence des femmes dans l'écosystème du sport et du basketball en particulier est importante, car elle est essentielle dans le développement économique qu'il veut impulser à travers cette ligue. C'est Dina Bagué à Dakar pour VOA Afrique.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Seloudia et Michel Joseph, également à la mise en onde, Kelvin Fowler à la console. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.